Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui.
À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 2 mai 2023. Il est 18h30 temps universel. Voici le sommaire. Au Soudan, une nouvelle trêve de 7 jours est annoncée pour jeudi alors que les combats se poursuivent. Au Bénin, plusieurs personnes ont été égorgées la nuit dernière à Kérou dans le nord-ouest. La zone est en état d'alerte maximale. Au Kenya, la police a dispersé une manifestation d'élus de l'opposition qui voulait protester contre la vie chère. Les États-Unis se rapprochent d'un potentiel défaut de paiement selon la secrétaire américaine au Trésor. Dans une dizaine de minutes, la Minute Echo, la croissance du PIB du Mali devrait remonter à plus de 5% en 2023 grâce à une robuste production agricole et orifère et les sports, avec le point sur la Ligue africaine de basketball. Pour commencer, le journal. Au Bénin, plusieurs personnes ont été égorgées la nuit dernière à Kérou, une ville du nord-ouest du pays. Plusieurs sources locales parlent d'au moins 7 morts et de plusieurs personnes enlevées. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Lundi 1er mai, aux environs de 22h30, des individus armés non identifiés ont fait irruption dans une ferme située dans le village du Kaobago, à Kérou, une ville située dans le nord du pays. Selon plusieurs sources locales, au moins 7 personnes ont été tuées et d'autres ont été enlevées aux premières heures du mardi 2 mai. Depuis l'attaque du lundi soir, la zone est en état d'alerte maximale. Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2022, des militaires déployés dans le cadre de l'opération Mirador avaient fait face à une attaque d'individus armés non identifiés dans le même village. Le bilan était de 4 morts dans le rang des assaillants et de plusieurs armes de guerre et munitions abandonnées. Mais pas de chance pour cette nouvelle attaque qui laisse désolation et inquiétude dans le rang des populations qui pleurent leurs morts. Kérou est une ville constituée d'agriculteurs, d'éleveurs, de commerçants et de transporteurs pour la plupart. Elle est souvent visée par des attaques terroristes et reste l'une des zones les plus surveillées par l'armée béninoise qui y a déployé depuis de longs mois un fort contingent. Pour le moment, aucune déclaration officielle de la part des autorités sur cette nouvelle attaque qui vient défier le dispositif antiterroriste mis en place. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Soudan, les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires ont convenu d'une trêve de 7 jours, a annoncé ce mardi le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères. Sur le terrain, les combats acharnés continuent et l'ONU s'alarme de la situation humanitaire. Jacques Aristide.
Le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagle ont convenu du principe d'une trêve du 4 au 11 mai, affirme le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué publié aujourd'hui. Les deux rivaux ont également donné leur accord pour nommer des représentants pour des pourparlers de paix qui doivent se tenir dans le lieu de leur choix, ajoute le communiqué. Le chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, agit sur l'initiative de l'organisation régionale est-africaine IGAD, dont le Soudan est membre, avec Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie et le Soudan du Sud. Aucune des précédentes trêves n'a été respectée, lesquelles ont toutefois permis les évacuations d'étrangers, même si le Nigeria a indiqué avoir des difficultés pour évacuer plus de 3000 de ses ressortissants bloqués au Soudan. Les combats ont fait plus de 500 sont morts, principalement à Khartoum et au Darfour, et des milliers de blessés selon un bilan largement sous-évalué. Le conflit a plongé le pays dans une véritable catastrophe. D'après l'ONU, plus de 330 000 personnes ont été déplacées et 100 000 autres sont partis vers les pays voisins, ajoute l'ONU, qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés. Ceux qui restent endurent des pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a réitéré le soutien de son pays aux efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit et assurer un accès humanitaire sans entrave. Après Riyad, un émissaire du général Burhan a rencontré les autorités égyptiennes au Caire, où la Ligue arabe discute du Soudan depuis hier.
En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir et le parti d'opposition Front Populaire Ivoirien ont signé ce mardi à Abidjan un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Nous notons tous que les plaies ne sont pas toutes cicatrisées parce que nous n'avons pas pu aller au bout d'un processus de réconciliation sincère, a déclaré Pascal Afinguessan, ancien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo et chef du FPI. Quoi qu'il soit arrivé par le passé, l'exigence d'un avenir commun doit l'emporter sur le désir de vengeance, a ajouté M. Afinguessan. Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP au pouvoir, a salué la hauteur d'esprit de Pascal Afinguessan et le sens de l'État d'Alassane Ouattara. Ils ont su faire table rase de beaucoup de choses qui les ont opposés pour se parler, pour se rencontrer, pour échanger, ce qui a permis à leurs deux parties d'en faire de même pour arriver à cet accord, a-t-il ajouté. Au Kenya, la police a dispersé avec du gaz lacrymogène une délégation d'élus de l'opposition qui souhaitait se rendre au bureau du président dans la capitale Nairobi. C'était lors d'une journée de protestation contre la vie chère, Rosine Munezero.
Des élus de la coalition d'opposition Azimio souhaitaient déposer une pétition sur le coût élevé des produits alimentaires, du carburant et de l'électricité. Après s'être vu refuser l'accès au bâtiment présidentiel, ils ont été dispersés à l'aide de grenades lacrymogènes. Après une pause d'un mois, l'opposant Raila Odinga a appelé à une reprise mardi des manifestations contre le président William Ruto, qu'il accuse d'être incapable de juguler l'actuelle flambée des prix. La matinée a été globalement calme dans le pays, avec quelques heurts et incidents isolés. Dans certains bidonvilles de la périphérie de Nairobi, des échauffourées ont opposé police et jeunes qui barraient des rues avec des pneus enflammés. Une précédente série de manifestations fin mars avait donné lieu à des affrontements et trois personnes dont un policier ont été tuées lors de ces rassemblements interdits par les autorités.
L'opposition kenyane a appelé pour jeudi à une nouvelle journée de mobilisation, estimant que le gouvernement a empêché ses actions prévues ce mardi pour la reprise de son mouvement de protestation anti-gouvernemental. Toujours au Kenya, la justice a annoncé ce mardi qu'elle allait poursuivre pour terrorisme le pasteur Paul Ntenge Mackenzie après la mort de 109 personnes dans une forêt du sud-est du pays où se réunissaient des membres de sa secte. Soupçonné d'être impliqué, le pasteur Ezekiel Odero, un des plus influents du pays, doit lui comparaître jeudi dans un tribunal après que son audience prévue mardi a été repoussée selon l'un de ses avocats. Paul Ntenge Mackenzie est accusé d'avoir poussé les adeptes de son église internationale de Bonne Nouvelle à mourir de faim pour rencontrer Jésus dans la forêt de Chakaola sur la côte kenyane.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis se sont rapprochés un peu plus d'un potentiel défaut sur leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu, s'avançant vers le moment où le pays ne pourra plus faire face à toutes ses obligations, a averti la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Joe Biden va rencontrer les leaders du Parlement pour tenter de dénouer la situation, Nani Talani.
Dans un courrier adressé au président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, estime que le mur de la dette pourrait être atteint dès le 1er juin. Concrètement, cela signifie qu'afin de pouvoir continuer à faire face à leurs échéances obligataires après le 1er juin, les États-Unis devront fortement en limiter d'autres qui pourraient notamment concerner les prestations de santé ou de retraite. Les républicains et les démocrates doivent donc parvenir à un accord rapidement. Depuis janvier, les deux parties sont engagées dans un bras de fer politique, empêchant le Congrès de prendre des mesures susceptibles d'assurer la continuité des dépenses gouvernementales. Les républicains lient l'augmentation du plafond de la dette à une baisse des dépenses du gouvernement fédéral avant de valider un accord. La Maison-Blanche a révélé que M. Biden a appelé lundi Kevin McCarthy, afin de le convier à une réunion le mardi 9 mai en présence des principaux responsables démocrates et républicains du Congrès.
Joe Biden ne négociera pas avec les républicains sur le relèvement du plafond de la dette que le Congrès américain doit décider sous peine de défaut de paiement. Les États-Unis a averti ce mardi sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Nous ne négocierons pas à ce sujet. Le plafond de la dette a été relevé trois fois pendant la présidence Trump. Cela ne doit pas être différent cette fois-ci, a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. L'opposition républicaine doit voter ce relèvement du plafond de la dette sans condition, a insisté Karine Jean-Pierre. Les États-Unis vont envoyer 1500 soldats supplémentaires à leur frontière sud, a annoncé ce mardi le porte-parole du Pentagone à l'approche de l'expiration d'une mesure sanitaire controversée permettant d'expulser sans délai les migrants franchissant les frontières terrestres des États-Unis. Le ministre américain de la Défense a approuvé une augmentation temporaire de 1500 membres supplémentaires du personnel militaire pour compléter les efforts de la police aux frontières à la frontière sud-ouest, a indiqué Pat Ryder. Les États-Unis craignent un pic des arrivées à leur frontière avec la levée de cette mesure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
La croissance du PIB du Mali devrait remonter à plus de 5% en 2023 grâce à une robuste production agricole et orifère. Parallèlement, les réserves budgétaires et extérieures ont diminué selon le FMI qui vient de mener des entretiens virtuels avec le gouvernement de Bamako et le secteur privé. Le FMI recommande la réduction de la masse salariale du secteur public, la suppression progressive des subventions et une gestion rigoureuse des dépenses publiques. L'Afrique doit être capable d'utiliser son potentiel hydraulique, forestier et minier pour financer son développement, estime la BAD, qui tient à en discuter lors de ses assemblées annuelles prévues du 22 au 26 mai en Égypte. Le potentiel africain inclut plus de 60% des terres arables non exploitées dans le monde, 7% des réserves mondiales de gaz naturel et de pétrole et environ 30% des réserves minérales mondiales, dont le cobalt, le platine, le manganèse, le diamant, le chrome et l'or. En outre, l'Afrique possède la population la plus jeune au monde. Pour terminer, l'Égypte poursuit la construction de sa centrale solaire photovoltaïque de Bembane pour porter à 42% la part de ses énergies renouvelables d'ici à 2035.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Basketball Africa League pour commencer, dos au mur, Seydou Legacy Athletic a réagi.
Oui, après deux défaites en deux sorties, les Guinéens devaient gagner pour se relancer. Ils l'ont fait devant les Ougandais de City Oilers, battus 96 à 68. Seydou Legacy Athletic Club effectue sa quatrième sortie demain mercredi dans un match qui s'annonce difficile face à Petro de Luanda. C'est la troisième défaite des City Oilers dans cette conférence nil. Toujours ce soir, les hôtes égyptiens d'Al Ahly veulent enchaîner une troisième victoire devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers.
Ici en NBA, Harden offre la première manche aux Sixers chez les Celtics.
Éblouissant et décisif comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps, avec 45 points marqués, James Harden a guidé Philadelphie à la victoire 119 à 115 à Boston pour reprendre l'avantage du terrain d'entrée de demi-finale de conférence Est. Bagasikoura.
À 33 ans, le Beard, entendez, le barbu, a montré qu'il n'a rien perdu de sa patte gauche. Il a été génial, il a gardé son sang-froid, il a su quand attaquer, quand ne pas le faire. Il a été fantastique, a salué son entraîneur Doc Rivers. De fait, le contexte l'obligeait pour ce premier match de Philadelphie à Boston, car Joel Embiid, le Camerounais meilleur marqueur de la Ligue cette saison, était encore forfait en raison d'une entorse au genou droit. Finaliste l'an passé, Boston devra vite se ressaisir demain mercredi pour la deuxième manche, car Embiid pourra bien être rétabli et rendre ses Sixers encore plus costauds.
Football, suite ce mardi des matchs de la CAN des moins de 17 ans.
Le groupe A effectue sa deuxième sortie ce soir à suivre le choc entre le pays hôte, l'Algérie et le Sénégal, tous vainqueurs lors de leur premier match. Dans cette même poule, la Somalie et le Congo veulent se relancer. Après leur défaite respective d'entrée, hier, le groupe C a bouclé les matchs de la première journée avec la seule rencontre entre le Mali et le Burkina Faso, remportée par les Maliens 1 à 0. Le second qui devait opposer le Cameroun au Soudan du Sud a été annulé. La CAF a disqualifié les Soudanais, dont 4 de leurs joueurs ont été rattrapés par le test IRM.
En tennis, fin de parcours pour Maya Shérif au tournoi de Madrid.
En quart de finale, l'Égyptienne a été battue 2-6, 6-2, 6-1 par la numéro 2 mondiale, Arina Zabalenka, qui devient la première qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Biélorussie, sacrée pour la première fois en grand chelem à l'Open d'Australie en janvier et finaliste sur la terre battue de Stuttgart en Allemagne il y a une quinzaine de jours, affrontera en demi-finale soit la Grecque Maria Sakkari, soit la Roumaine Irina Camelia Begu, jeudi pour une place en finale. Zabalenka a atteint au moins les quarts de finale dans les sept tournois, Madrid compris, qu'elle a disputé en 2023.
Merci à Kouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Sénégal, les commissions de révision exceptionnelle des listes électorales achèvent aujourd'hui les opérations d'inscription de nouveaux électeurs. Les non-inscrits et ceux qui comptent voter pour la première fois se précipitent vers les centres d'inscription pour avoir leur mot à dire lors de la prochaine élection présidentielle en 2024. Le point avec notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Le changement passe par les urnes et non par la violence, telle est la conviction d'Ibrahima Badji. Pour lui, il est temps d'amener du sang neuf à la tête de l'État et l'inscription sur les listes électorales en est la première étape.
Je veux récupérer ma carte et voter parce que j'ai envie de voir un autre président à la tête du pays pour voir s'il va pouvoir aider les jeunes, amener des choses nouvelles et mettre le pays sur la voie du développement que tout le monde attend. Et tous ces vœux ne seront réalisés qu'avec un retrait massif des cartes d'électeurs contestées sans voter. C'est un échec. Toute contestation qui se fait sans le retrait des cartes est vouée à l'échec.
Aguedjouaï, dans la banlieue de Dakar, le constat est le même. Les jeunes, comme Benjamin Fall, sont aussi très engagés dans cette étape qu'ils jugent importante pour la démocratie.
Les jeunes sénégalais ou la jeunesse sénégalaise veut prendre en main son destin pour mieux cerner les objectifs de développement qui se posent, vu que le régime actuel n'est pas en adéquation avec les besoins de la population. C'est pourquoi tous les jeunes réclament leur droit, qui est un droit législatif, concernant les votes, tout ça, pour mieux prendre leurs décisions pour conditionner l'avenir de leur pays.
Des jeunes déterminés qui se plaignent cependant de la lenteur des opérations, comme le souligne Daifay.
Pour moi, c'est très simple. Hein. C'est juste que les jeunes ont envie de changer. Vraiment. Ils ont juste envie de changer ce qui se passe dans leur pays. Ils sont tous en train, bien sûr, de dire qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'eux. Ils sont là du matin jusqu'au soir et les gens ne travaillent pas. Parfois, d'autres leur disent qu'ils ont arrêté et des trucs comme ça.
Débuté le 6 avril dernier, les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales prennent fin ce 2 mai. Durant cette période, les jeunes non inscrits sur les listes et les primo-votants se sont fortement mobilisés pour, disent-ils, avoir leur mot à dire lors de la présidentielle de 2024. Pour eux, le vote est la voie la plus fiable pour le changement. C'est Dina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, la représentativité des femmes dans les assemblées élues reste faible, malgré une loi prise en 2019 portant le quota féminin à 30%. À l'approche des élections locales de 2023, des formations sont menées par des ONG et d'autres structures et tactiques pour une meilleure présence des femmes dans les assemblées. Plus de détails dans ce reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Représentativité des femmes dans les assemblées, la réalité est tout autre, selon le vice-président de l'Assemblée nationale, Gaston Weyimela.
À l'état actuel de notre Parlement, la moisson est maigre. Nous dénombrons 19 femmes sénateurs et 35 femmes députées sur un total de 354 parlementaires.
C'est pourquoi le Conseil national des droits de l'homme veut aider les femmes qui veulent être candidates à accroître leurs atouts. Namizata Sangaré, présidente du CNDH.
Une phase de formation sur des notions théoriques sur 4 mois et puis une autre phase pratique. Notre objectif, c'est 170 femmes, 10 femmes que nous allons coacher pour les régionales, 70 femmes pour les municipales et puis les autres pour celles qui souhaitent être soit directrices de campagne ou être actives active dans des stades de campagne.
La formation comprend entre autres la stratégie de communication pour convaincre l'électorat. La panéliste Agnès Crédy, journaliste et experte en genre.
Bien communiquer, c'est savoir ce qu'on a à dire. Donc la question du message. Et à qui ce message s'adresse? Identifier le message de manière claire, identifier la cible, identifier les canaux de diffusion de ce message, et ça c'est important. Avoir une bonne notion de tous les médias. C'est aussi connaître les codes couleurs, c'est comment se vêtir, c'est comment se présenter. C'est donc avoir une personnalité affirmée et puis avoir des idées très claires.
Une panéliste, Simone Yves Gbagbo, ex-première dame, est présidente du mouvement Génération Capable qui est intervenue sur le thème « Comment devenir une femme politique de conviction ?»
La femme politique de conviction doit être une femme déterminée, une femme audacieuse. La clé pour réussir une carrière politique, c'est d'avoir des convictions fermes, des convictions fortes et une vision claire. Cette vision-là, elle doit être fondée sur des valeurs.
Pour les organisations non gouvernementales, le challenge, c'est un rendement de qualité. Chantal Ayemou, présidente du réseau ivoirien de défense des droits de la femme et de l'enfant, le RIDEF.
L'action que nous menons, c'est d'attirer l'attention des décideurs, l'attention des femmes elles-mêmes, l'attention des partis politiques sur le fait d'impliquer les femmes à la prise de décision.
Pauline Yao Afoué, présidente de la coordination des femmes pour les élections en Côte d'Ivoire, COFEMSI, apporte cet éclairage.
Les gens ont l'impression qu'en parlant de loi et de quotas, c'est une faveur qu'on veut faire aux femmes. Raison pour laquelle les femmes doivent prouver qu'elles ont les capacités de leadership. D'abord la responsabilité, la confiance en soi, car le secret de la bonne gestion. Les femmes doivent se décider elles-mêmes de briguer. Les postes, il faut s'imposer. Nous sommes sur la voie.
Donc, il faut se donner les moyens de se jeter dans la bataille politique pour convaincre les électeurs, car aucune élection n'est gagnée d'avance. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de femmes déplacées de guerre au nord Kivu s'activent au quotidien pour faire vivre leur famille dans différents sites de cantonnement. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi a visité le camp de Kanyaru-Tinya. Voici son reportage.
Sous un parapluie au bord de la route, Olvine Semasaka, couturière, confectionne une petite robe sur sa machine à coudre. Après la couture, elle restera sans rien faire. Les déplacés, soucieux avant tout de la nourriture, n'ont pas d'argent pour se payer le luxe d'une robe.
Le travail n'évolue pas parce que les gens n'ont pas d'argent. Un modèle pour lequel on peut payer 10 000 francs, je le fais à 7 voire 5 000 francs. Nous n'avons pas le choix.
Justine Nguyekouré, une autre couturière, est dans la même situation. Pour contourner le manque d'argent, elle fait une sorte de troc et s'est fait payer avec des vivres.
C'est quand les déplacés ont reçu l'assistance qui nous amène des tissus à coudre. Ils amènent parfois de l'argent et souvent des vivres dont nous estimons la valeur en argent et nous nous rendons service. Lorsque je manque du travail ici, je vais transporter des sacs de presse dans le parc, dans mes pays, ou soit je vais mendier dans la cité.
Malgré toutes les difficultés dans les camps des Kanyaru, Madame Nirabimana Sifa parvient à assurer un repas par jour à sa famille de 6 enfants en vendant du riz et des haricots.
Je vends en détail du riz et des haricots, mais rien ne va franchement. Nous avons 6 enfants, plus mon mari et moi, ce qui fait 8. Nous ne mangeons pas la journée, nous nous contentons du peu que nous trouvons la nuit.
Le rétablissement de la paix dans la province du Nord Kivu est le rêve de toutes ces femmes. Clémence Karimunda, vendeuse de souliers, billets et crédits téléphoniques dans les camps, rêve de pouvoir reprendre son travail d'enseignante de l'école primaire.
Quand j'étais chez nous à Rougari, j'enseignais dans une école primaire. Lorsque la guerre a éclaté, tout s'est arrêté et tout le monde ne devrait que chercher autrement sa survie. Lorsque la paix sera rétablie, j'espère que je reprendrai mon vrai travail.
Selon les organisations humanitaires, plus de 530 000 personnes ont été contraintes à quitter leur village pour se réfugier dans des camps au Nord Kivu. La majorité sont des femmes et des enfants. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et ont durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Se présenter à la mauvaise porte, conduire dans la mauvaise allée, récupérer un ballon de basket dans la cour d'un voisin en colère, voici quelques-uns des scénarios qui ont conduit à des fusillades ce mois-ci aux États-Unis. Selon les partisans du contrôle des armes à feu, ces fusillades montrent que les États-Unis ont besoin de lois plus strictes. Laurel Bowman fait le point, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Voici quelques-unes des victimes qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment et qui ont été la cible de tir. Âgé de 20 ans, Kevin Gillis a été abattu par Kevin Monahan, 65 ans, alors qu'elle et ses amis se sont aventurés en voiture, trop près de son domicile à New York. Son père, Andrew Gillis.
My daughter was an honor student.
Ma fille était une excellente élève. Elle avait l'espoir et le rêve de devenir biologiste, marin ou vétérinaire. Et cet homme nous a appris ça.
Monsieur Monahan a été accusé de meurtre. Le shérif local, Jeffrey Murphy.
Il n'y a eu aucune interaction entre M. Monahan et les occupants des véhicules. Ils avaient réalisé qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Ils ont fait un tour pour partir. Et c'est à ce moment-là que les coups de feu ont été tirés.
Andrew Lester, 84 ans, a été accusé de voie de fait au premier degré pour avoir tiré sur Ralph Yarl, 16 ans, qui s'est présenté à sa porte d'entrée à Kansas City, dans le Missouri. M. Lester a dit qu'il pensait que l'adolescent faisait irruption dans sa maison. L'avocat de Ralph a déclaré que le jeune homme s'était trompé de résidence alors qu'il devait récupérer ses jeunes frères et sœurs. L'avocat de la famille Yarl, Lee Merritt.
Remarquez bien que toucher la porte en soi ne suffit pas à justifier l'utilisation d'une arme mortelle. Mais Ralph sonna à la porte et attendit tranquillement dehors jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Cela a pris du temps parce qu'évidemment, M. Lester a dû récupérer son arme, mais Ralph n'a pas essayé d'entrer dans la maison.
Il y a seulement 6 ans, Kinsley White est devenue une cible avec son père alors qu'elle tentait de récupérer un ballon de basket dans la cour d'un voisin. Le tireur a été arrêté. Écoutons Kinsley.
Pourquoi a-t-il tiré sur moi, mon père ?
Les défenseurs des armes à feu déplorent les récentes fusillades, mais tiennent fermement à leur droit constitutionnel du second amendement de porter des armes à feu. Mike Anestis est le directeur exécutif du New Jersey Gun Violence Research Center.
Certaines des politiques qui ont fait leurs preuves prouvent qu'il faut traiter ce qui se passe au point de vente ou empêcher certaines personnes d'obtenir des armes à feu. Et cela pourrait être les vérifications d'antécédents étendus ou des période d'attente ou exiger un permis pour acheter une arme à feu.
Lee Williams est rédacteur en chef du projet de journalisme d'investigation de la Fondation Second Amendment et membre du conseil d'administration du groupe Pro-Armes Florida Cary.
C'était un très bon amendement. Localement, personnellement, ça me permet d'avoir la meilleure arme à feu alors que je dois me défendre moi ou ma famille.
Les partisans des armes à feu disent que les Américains veulent se protéger et ne pas compter uniquement sur la police. En attendant, les fusillades continuent.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Restez à l'écoute de nos programmes. Merci et à très bientôt.